Gwenmont Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
Bonjour et bienvenue sur l'émission Gwenmont Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi sur Fréquence Paris Pluriel, le quatrième lundi de chaque mois. Gwenmont Lundi est réalisé en partenariat avec Homo Micro, avec le soutien de SOS Homophobie. Et elle est animée par Léa Lujiter et Lila Bozès. Bonjour Léa.
Bonjour Lila. Alors cette semaine, on va parler des discriminations sexistes et lesbophobes au travail. Pour en débattre avec nous, Sophie Pochic, sociologue au CNRS, spécialisée sur les inégalités et discriminations professionnelles, et également enseignante au Master Genre de l'EHESS. Anne-Gaëlle, bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Anne-Gaëlle Duvauchel, administratrice de l'Autre Cercle, association qui lutte contre les discriminations LGBT-phobes au travail, membre de la délégation Midi-Pyrénées. Bonsoir Anne-Gaëlle.
Bonsoir.
Et Marie-Aline Millot, membre de l'organisation des événements Lesbiennes ou Tech.
Bonsoir.
Bonsoir.
Mais avant de commencer la discussion, c'est l'édito d'Amandine Miguel.
Bonjour à toutes et à tous. Achou! J'espère que vous allez bien, hein, sur le plateau de Gwenmont Lundi, et que vous êtes passés au travers de la fillonite aiguë. Et oui, l'épidémie qui s'est installée hier soir. Le soutien, le fameux soutien de Sens Commun et de la Manif pour tous, a été élu à la primaire de la droite et du centre, le dénommé François Fillon. Avec Macron, le nombre de planqués candidats à la présidentielle est donc porté à 2. Private joke. La victoire d'un candidat qui porte une vision archaïque de la société, mais n'est bien sûr pas du tout une bonne nouvelle pour les droits des femmes lesbiennes, bisexuelles et hétéros. On le rappelle, hein, Fillon est contre l'IVG, le mariage pour toutes et tous et la PMA.
Mais Amandine, alors qu'est-ce qu'il s'est passé dans la sphère lesbienne et biféministe en novembre ?
Eh bien, vendredi dernier, le 25 novembre, c'était la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Malgré des chiffres révoltants et parlants, eh bien, il n'y a toujours pas de réelle volonté politique pour mettre fin aux violences masculines sur les femmes. Et pourtant, en France, 86 000 viols par an, avec seulement 1,5% de condamnation, et une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou son ex-conjoint. Les femmes lesbiennes, bisexuelles et trans sont quant à elles doublement, voire triplement discriminées et sujettes aux violences patriarcales en raison de la conjugaison des violences sexistes et homophobes à leur encontre. Il s'agit de la lesbophobie. Les personnes trans, quant à elles, subissent jusqu'à une triple discrimination, sexisme, homophobie et transphobie.
Alors ce 25 novembre prenait une résonance toute particulière à la suite des affaires Jacqueline Sauvage et David Hamilton, le photographe violeur.
Et oui, deux actualités marquantes sur les violences faites aux femmes ont précédé ce 25 novembre. La veille, le 24 novembre donc, la justice refusait à nouveau une libération conditionnelle à Jacqueline Sauvage. Condamnée, on s'en souvient, à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari, après avoir subi 47 années de violences conjugales. Elle et ses filles avaient été violées et battues par son mari. Le fils également a subi les violences de son père et s'est suicidé la veille du meurtre. On rappelle qu'en janvier 2016, François Hollande, président de la République, lui accordait la grâce partielle. Et oui, seulement partielle et pas une vraie et entière grâce présidentielle, qui lui donc permettait seulement de présenter une demande de libération conditionnelle. Demande de libération conditionnelle qui a été rejetée en août 2016. Et vous savez ce qu'on reprochait à Jacqueline Sauvage ? Eh bien, de ne pas assez s'interroger sur son acte. Alors nous, à Gwenmont Lundi, nous pouvons nous interroger si la justice est réellement du côté des victimes. Parce que ici encore, la parole des femmes n'est pas entendue et la violence faite aux femmes n'apparaît clairement pas être une priorité.
Alors une pétition pour la libération immédiate de Jacqueline Sauvage a été mise en place sur change.org, donc demandant au président de la République de lui accorder une grâce totale pour qu'enfin Jacqueline Sauvage soit libérée de prison. Alors il y a déjà 300 000 signataires, donc nous vous appelons également à la signer. Alors Amandine, la semaine précédente, le 25 novembre, les viols et les agressions sexuelles du photographe David Hamilton sur plusieurs femmes ont également été relayés par la presse.
Et oui, c'est le 25 novembre, donc le jour de lutte contre les violences faites aux femmes, une semaine après la confirmation de Flavie Flamand du nom de son agresseur, que le photographe violeur David Hamilton s'est suicidé. Cette affaire démontre une fois de plus que la justice n'est définitivement pas du côté des victimes. en raison du délai de prescription. Et oui, le viol ne semble pas être considéré comme un crime grave aux yeux de la justice, puisqu'à la différence d'autres crimes, il n'est pas imprescriptible. C'est-à-dire que le délai de prescription pour ensuite attaquer en justice son agresseur est de seulement 10 ans et de 20 ans pour les victimes de moins de 15 ans. Donc lorsqu'on sait la difficulté avec laquelle la victime porte plainte en raison de la culpabilité que la société lui fait porter, il est révoltant que ce crime soit soumis à prescription. Flavie Flamand l'explique dans l'entretien qu'elle a accordé à l'Obs le 18 novembre, je cite « Je ne l'ai pas cité parce que, aujourd'hui, la prescription condamne doublement les victimes de viol. Au bout de 20 ans, après la majorité, on vous explique que c'est trop tard. Et puis, vous pouvez aussi passer de victime à coupable, coupable de diffamation. »
On va changer un petit peu de registre. Alors, quels sont les événements lesbiens, bi et féministes à venir ?
Eh bien, à partir du 30 novembre, on est très très heureuse de vous présenter Parole de, de King, je le prononce mal, on refait Parole de King de Chris Lagg, qui sort au cinéma Saint-André-des-Arts à Paris, donc qui est le documentaire phare sur les drag kings en France. Et à Gouinement lundi, on se rappelle, on avait déjà invité la réalisatrice Chris Lagg lors du Gouinement lundi d'octobre 2015 sur la visibilité et place des lesbiennes au cinéma, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en podcast sur le site de Mon Micro. Le 1er décembre, on se donne rendez-vous pour la journée mondiale de lutte contre le sida. Et donc on manifestera à 18h, on se donne donc rendez-vous pour la manifestation à 18h à Paris, place de l'Hôtel de Ville. Cette année, la manifestation aura pour mot d'ordre « C'est repos, on vote pour qui ?». Le 2 décembre, on se retrouve ensuite à la Play Night, la soirée sex party pour lesbiennes, meufs, bisexuels, trans, gender queer, multigender, gender conforme, gender variante, etc., etc. En dehors de tous les codes conventionnels, c'est 87 rue Saint-Honoré à Paris, au Next. Et puis samedi 10 décembre, eh bien à 15h, on se retrouve pour la mobilisation, pour la libération de Jacqueline Sauvage à Paris. Le lieu sera indiqué plus tard sur l'événement Facebook pour demander cette fois à François Hollande la grâce totale et immédiate de Jacqueline Sauvage. Enfin, nous avions également une date importante dans la sphère féministe, l'action du 7 novembre qui appelait les femmes à se mettre en grève pour dénoncer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Et les discriminations sexistes et lesbophobes au travail, c'est justement le thème de ce Gouinement lundi de novembre.
Et donc justement, Juliette Amé est allée interviewer Rebecca Anzelem, qui est fondatrice du collectif Les Glorieuses, qui appelait les Françaises à arrêter le travail à 16h34 le 7 novembre. On l'écoute.
Alors, j'ai créé Les Glorieuses pour être à la base d'une newsletter, c'est une newsletter que j'envoie chaque semaine avec des thématiques différentes, donc la politique, l'amitié, l'amour, enfin la culture, etc. Et l'idée, ou en tout cas le sentiment que je souhaite retrouver dans chacune des newsletters, c'est le fait de donner aux femmes un sentiment de puissance et qu'elles puissent se dire « je peux faire ce que je veux quand je veux et finalement personne ne va me dicter ma conduite ou mon comportement ». Et puis après, effectivement, ça a évolué et aujourd'hui, le projet plus large, l'objectif plus large, est effectivement de mener des campagnes de sensibilisation autour de l'égalité entre les femmes et les hommes sur plusieurs thématiques et que la newsletter vient appuyer si besoin. Alors effectivement, l'idée m'est venue d'écrire une newsletter sur l'inégalité des salaires en voyant l'initiative des Islandaises qui ont décidé le 24 octobre, si mes souvenirs sont bons, de partir toutes vers 16h du travail pour protester contre l'inégalité des salaires. 14h38, pardon. Elles sont parties à 14h38. Et j'ai trouvé que c'était vraiment cet activisme de leur part m'a énormément inspirée et j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait non pas l'adapter, mais comment est-ce que nous, les Françaises, on pouvait aussi dire au monde et aux Français en règle générale que nous aussi, on ne va pas se laisser faire et nous aussi, on va se battre pour l'égalité des salaires. Donc c'est vraiment comme ça, de ça qu'est venue l'idée. Et j'ai essayé de pousser l'exercice un peu plus loin en disant non pas à quelle heure elle partait du travail, elle devrait partir du travail tous les jours, mais à partir de quel moment en 2016 elle devrait s'arrêter de travailler et à partir du moment auquel elle commençait à travailler bénévolement. Ce que je fais, c'est davantage un travail de sensibilisation du grand public et peut-être au-delà des cercles militants, donc peut-être trouver des mots qui parlent à tout le monde et peut-être faire en sorte que qui s'y intéressent par d'autres biais. Là, je pense que ce qui a fonctionné, pour être très pragmatique, c'est le fait d'avoir une date, un jour, une heure. Et finalement, tout d'un coup, ça permettait d'incarner cette inégalité salariale. Et c'est peut-être ça qui manquait à cette thématique-là. On n'arrivait pas à l'incarner. On disait, oui, les femmes gagnent moins, 20%, 15%. Le fait qu'il y ait plein de chiffres, par exemple, ça faisait que on pouvait tout à fait discréditer la personne, enfin, la personne avec qui on parlait, parce que tous les chiffres, toutes les statistiques ont des biais, et finalement on peut aussi faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Alors que là, pour la première fois, c'était quelque chose sur lequel on... Voilà, ça permettait de l'incarner. Et en fait, l'autre élément, à mon avis, c'était que... Bon, même si ça a été repris comme ça dans tous les journaux, on fait qu'on n'osait pas d'appel à la grève, mais... Finalement, on proposait à chaque personne de s'approprier cette thématique comme il le souhaitait. Il faut créer en fait un imaginaire collectif. Il faut trouver quelque chose que et le public et vous reconnaissez et pouvez reconnaître de manière instinctive. En gros, vous n'êtes pas là pour faire de l'éducation ou de la pédagogie en disant bah voilà, ça c'est notre problème, c'est ça, etc. Il faut qu'il y ait un symbole très fort tout de suite pour jouer sur l'émotion aussi, pour faire en sorte que ce que vous ressentez vous par rapport à cette cause, vous la transmettiez auprès du grand public. Et en fait, là, c'est la troisième opération qu'on fait sur l'inégalité des salaires. Et effectivement, on va le reconduire l'année prochaine. Et avec grand plaisir, on fera effectivement un mouvement plus large avec davantage de partenariats avec d'autres organisations. Je pense que c'est très important. Et puis, on va aussi continuer à faire évoluer la sensibilisation, notamment au moment des présidentielles.
Donc peut-être Sophie Pochic, une réaction vis-à-vis de ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce que vous pensez peut-être de cette nouvelle forme de mobilisation? Et vous donc qui êtes sociologue spécialisée sur les inégalités et discriminations professionnelles, du fait que voilà, les statistiques peuvent peut-être être biaisées, enfin peut-être une réaction sur cet aspect-là et voilà.
Bah, tout d'abord, revenir sur le succès de cette mobilisation. Parce que, comme on le voit, finalement, ce sont deux jeunes journalistes d'un web magazine féministe qui ont lancé un appel à la grève qui a eu un succès incroyable auprès des médias. Et on peut leur reconnaître, comme elle le dit, de bien communiquer, travailler sur les symboles et construire une campagne. Ça a été un succès puisque la plupart des journaux ont relayé en première page comme Libération avec des articles dans 20 minutes. Et ça, il y a eu vraiment un relais sur une thématique, les écarts de salaire femmes-hommes, qui est une thématique extrêmement classique. Mais là, comme elle l'avait construit de manière innovante, ça a pris, et ça a pris dans des espaces où d'habitude on ne parle pas de ces thématiques. J'ai un peu listé, on l'avait dans l'Express, dans Figaro Madame, dans Atlético, Slate, le boursier.com a même fait un petit encart là-dessus. Donc ça a fonctionné. Et,
autant qu'en Islande, par exemple.
Alors, justement, ça a fonctionné en termes de communication et relais médias. Mmh. Mais là où ça n'a pas fonctionné, c'est en termes de rassemblement physique et de grève effective. C'est-à-dire, on n'a pas les chiffres, mais je pense que certaines d'entre vous ont peut-être été au rassemblement physiquement. Il y avait peu de monde au rassemblement de la République. Et puis, surtout, à la différence avec l'Islande, c'est que les organisations syndicales n'avaient pas été du tout sollicitées. C'est-à-dire, les organisations syndicales ont été mises devant le fait accompli. Alors, Rebecca le dit un peu naïvement, on recommencera l'année prochaine et on étendra notre partenariat. Alors, c'est à la fois intéressant de voir comment les organisations syndicales qui sont, et les représentants du personnel, qui sont dans les lieux de travail, ceux qui sont chargés par la loi de négocier sur les écarts de salaire, les accords égalité professionnelle. Et chaque année, dans les négociations annuelles, sont chargés normalement de réduire ces écarts, n'étaient pas conçus par elles comme des partenaires. Et donc... Il n'y a pas eu de grève générale. L'Islande, c'est complètement différent. En fait, moi, je trouve ça assez intéressant parce qu'elle a transféré une idée qui existe en Islande. Mais en Islande, en fait, c'est une tradition, c'est un événement historique. Elle n'en parle pas. En fait, en 1975, l'ensemble des collectifs féministes, c'était le moment de l'année mondiale des droits des femmes qui avait été lancée par les Nations Unies. avait fait un immense mouvement collectif. Il y avait eu 90% des salariés féminines qui avaient arrêté de travailler. Et donc, comme c'était les typographes, les journaux n'étaient pas sortis, toute l'Islande s'était arrêtée. Et donc, depuis, c'est devenu le 24 octobre un jour. Et ce n'est pas annuel, ça dépend des moments, mais les organisations syndicales relaient régulièrement cet appel à un jour de congé. D'ailleurs, en 1975, elle s'était dit « grève de femmes, on n'y arrivera pas ». Partir en grève pour les ouvrières, par exemple, c'est risqué. Elles avaient appelé à prendre un jour de congé. Et c'est resté le jour de congé des femmes. Mais quand c'est appelé en Islande, quand c'est organisé, la principale organisation syndicale islandaise lance le mouvement avec les collectifs féministes. Donc pour moi, ce qui s'est passé en France, c'est le reflet de l'écart assez fort qui existe entre les collectifs féministes, notamment les nouveaux collectifs, puisqu'il y a un renouveau là, du collectif féministe, et les organisations syndicales. Mais alors d'ailleurs, ça a donné des choses assez intéressantes. Par exemple, LCI m'a appelée en me demandant pourquoi les syndicats sont des gros ringards. Alors, moi qui travaille sur les organisations syndicales, qui respecte beaucoup le travail qu'ils réalisent dans l'ombre, évidemment, j'ai répondu à la journaliste de manière un peu ironique. C'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les journalistes vous intéressez aujourd'hui à ce thème alors que d'habitude les inégalités de salaire vous en foutez royalement. On me dit, mais non, c'est pas vrai. Je dis, si, est-ce que vous étiez déjà intéressé à ce thème, à la négociation collective, aux résultats dans les prud'hommes, d'un grand procès pour discrimination salariale? Non. Donc je dis, les organisations syndicales ne sont pas des ringards sur ce thème. D'ailleurs, certains, là, par exemple, la CGT des journalistes, enfin, la fédération CGT Infocom, avait vu que ça avait pris dans les médias et avait déposé un préavis de grève. Ce qui fait que les journalistes ont pu faire grève. Et c'est bien pour ça que vous avez des belles photos. Il y a eu toutes les journalistes du Monde qui étaient descendues en bas, par exemple. Et Libération aussi. C'est parce que là, il y avait eu un lien beaucoup plus fort entre les organisations syndicales et les collectifs féministes.
Et alors, si on fait le point un petit peu sur les chiffres, donc les statistiques actuellement en France, quel est l'écart de salaire entre hommes et femmes? Est-ce qu'il y a des chiffres précis?
J'ai pas aimé ce que dit Rebecca en disant « oui, il y a tellement de chiffres qu'il faut construire un symbole parce que sinon, ça peut un peu discréditer ». Non, la question des écarts de rémunération, c'est compliqué parce que ça dépend quelle base on prend. Est-ce qu'on prend justement le salaire horaire ou est-ce qu'on prend la rémunération totale? Parce que si vous prenez, donc on peut descendre entre 10% jusqu'à 20%, tout simplement parce que y a beaucoup de femmes qui travaillent à temps partiel. Donc si vous prenez la rémunération globale, évidemment, emploi partiel, ça veut dire salaire partiel. Si vous prenez salaire horaire, simplement, ben vous réduisez cet écart. Est-ce qu'on prend les rémunérations, les salaires fixes, ou est-ce qu'on prend aussi toutes les heures sup, les primes et les bonus? Pour ça, si vous voulez un peu mieux comprendre la question des inégalités de salaire, il y a une économiste qui a écrit un ouvrage qui est très bien, qui s'appelle « Un quart en moins », c'est Rachel Silvera, et elle montre bien comment expliquer cet écart de rémunération globale. Il y a évidemment des différences aussi de valorisation des métiers. Les femmes s'orientent. On reviendra sur les femmes dans les métiers techniques tout à l'heure. L'informatique, c'est en ce moment un secteur qui recrute, qui est en pénurie. Si les femmes vont dans les métiers informatiques, elles auront des bons salaires. Sauf que la plupart des femmes, alors en lien là, avec la socialisation familiale, les représentations des métiers, vont plutôt s'orienter vers des métiers, des secteurs moins rémunérés. On a beaucoup de femmes qui sont employées à domicile, secrétaires, employées dans les commerces, mais même les diplômées, elles vont moins aller dans les formations techniques et plus aller vers les formations tertiaires. Et donc, comme ces métiers sont moins valorisés, ils sont moins rémunérés. Donc on a un effet structurel qui est assez fort. Et ça, c'est simplement si on prend au global, mais si on prend en termes de carrière, vous le savez, il y a à peu près 30% d'écart de retraite entre les femmes et les hommes. Tout simplement parce que la retraite, c'est la dynamique finale de tous les écarts de rémunération accumulés. Les hommes ont plus des trajectoires, des carrières linéaires, avec des progressions à temps plein, tandis que les femmes, elles ont, en raison des charges familiales, mais aussi de l'instabilité plus forte dans les secteurs d'emploi féminins, elles ont, au fur et à mesure, plein de petites... Et moins de progression aussi dans les secteurs féminisés. Il y a beaucoup moins de promotions internes. Et bon, elles ont des salaires beaucoup plus bas en fin de carrière. Elles sont plus touchées par le chômage et la précarité, etc.
Donc finalement, ce serait ça le chiffre le plus parlant. Si on arrive à la retraite, ça rassemble tous les facteurs.
L'écart de rémunération, oui, ça c'est très important. L'écart est très élevé à 50 ans. Et d'ailleurs, Thomas Piketty, le jour du 7 novembre, avait sorti un article qui, justement, montrait ces chiffres et montrait que les écarts de rémunération, notamment pour les diplômés, ils sont assez similaires maintenant à l'entrée, notamment parce qu'il y a des lois qui interdisent la discrimination salariale à l'embauche. Il y a des conventions collectives en France, heureusement. Il y a des garde-fous. Il y a de plus en plus de femmes aussi qui vont au prud'homme, notamment les femmes diplômées. Mais par contre, il y a vraiment des inégalités fortes quand on regarde l'ensemble de la dynamique de carrière. Et le fait que les chiffres ne soient pas faciles à manier. Moi, je le vois très concrètement dans les négociations collectives. Parce que si vous êtes dans une entreprise, normalement, toutes les entreprises doivent ouvrir des négociations collectives sur l'égalité professionnelle, dont l'égalité salariale. D'ailleurs, je dis aux auditrices, si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés qui n'a pas ouvert ce thème de négociation collective, demandez à ce qu'ils le fassent. Les entreprises peuvent être sanctionnées si elles n'ouvrent pas ces négociations. Et donc, ensuite, il y a une obligation en France d'avoir des publications des chiffres. Alors, toute une batterie d'indicateurs, notamment sur les écarts de rémunération à catégorie socio-professionnelle légale. C'est un peu complexe. Voilà. Donc, on regarde les cadres, les professions intermédiaires, les ouvriers, les employés. Est-ce que, en moyenne, dans cette entreprise, ils ont un écart de rémunération? Et parfois, les représentants du personnel sont un peu embêtés parce que, par exemple, ça montre que l'écart moyen de rémunération dans cette boîte, il n'est pas si important que ça. Et même pour les professions intermédiaires, les femmes sembleraient gagner mieux que leurs collègues. Mince alors, il y aurait un favoritisme ou alors il n'y aurait pas de problème. Et en fait, c'est qu'il faut intégrer un effet de dynamique. Et notamment, rappeler que si les femmes dans les catégories intermédiaires gagnent en moyenne plus que leurs collègues, ce n'est pas qu'elles sont mieux traitées, c'est parce qu'elles sont plafonnées et qu'elles ne passent pas. Cadre où elle passe pas ingénieur. Et donc les inégalités de salaire, c'est pas statique, c'est aussi dynamique. Et la question du plafond de verre doit être intégrée dans l'analyse des écarts de rémunération.
Et donc comme les chiffres sont finalement doivent être rendus publics, il y a des moyens de sanction vis-à-vis des entreprises. Est-ce qu'il y a des différences entre finalement privé et public?
Oui, alors depuis, c'est intéressant, là, quand le gouvernement socialiste est arrivé, depuis longtemps, en fait depuis 2001, les entreprises sont obligées d'ouvrir des négociations sur, c'est la loi Génisson, sur l'égalité salariale. Mais Najat Vallaud-Belkacem, c'est celle qui est arrivée en disant « on avait dit qu'il y aurait des sanctions s'ils n'ouvraient pas des négociations. Et ben, maintenant, on va les mettre, les sanctions. » Donc, il y a quelques entreprises qui ont commencé à être sanctionnées parce qu'elles n'avaient pas ouvert de négociations. Une fois qu'elles ouvrent les négociations, en général, il n'y a pas de sanctions parce que ça veut dire que déjà, elles essayent d'agir sur ces questions.
Sanctionner, c'est sanctionner financièrement?
Sanctionner financièrement. Hein, ça peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. En moyenne, c'est 0,5% de la masse salariale. Alors, il y a un grand débat. La CGT, notamment, veut que les noms des entreprises sanctionnées soient rendus publics. Le ministère du Travail ne veut pas, en disant que ça serait créer une image négative qui pourrait avoir des effets néfastes sur la productivité de l'entreprise et donc les salariés elles-mêmes. Et donc, ça n'aiderait pas à résoudre le problème. On sait leur profil. Les grandes entreprises ont plutôt tendance à se mettre plutôt en ordre de conformité. Ça ne veut pas dire qu'ils résolvent tout, mais en tout cas, ils essayent d'agir sur cette question. Les PME, sont beaucoup plus réticentes à y aller. Et certains secteurs très féminisés, alors que c'est là où il y a beaucoup de femmes, ne veulent pas y aller. Notamment grande distribution, mais aussi santé, travail social. Par exemple, les hôpitaux privés, enfin les cliniques, quoi. Les maisons de retraite. Pourtant, certaines sont extrêmement lucratives en termes de secteur. Par exemple, les maisons de retraite ne veulent pas. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire, la plupart du temps, revaloriser les salaires des femmes.
Et donc, là, on a vu peut-être les différents leviers, actions directes comme les Glorieuses, les syndicats. Est-ce qu'on peut avoir des actions au prud'homme aussi ? Est-ce que c'est possible aussi de finalement de connaître, est-ce qu'on a le droit de savoir le salaire de ses collègues et de le faire valoir devant les prud'hommes ?
Oui, oui, c'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé intéressant, c'est grâce aux Glorieuses, il y a même eu un avocat qui, dans 20 minutes, a rappelé quels étaient les droits des salariés si jamais il estimait qu'il y avait un soupçon de discrimination salariale. Donc vous pouvez tout à fait saisir les prud'hommes. La différence, la négociation collective vise à prévenir la création d'écart de salaire est réparée. Donc il y a certaines entreprises qui ont vraiment mis beaucoup d'argent sur la table pour rattraper les écarts passés. Le problème de l'usage des prud'hommes, c'est une action individuelle. C'est-à-dire que vous allez aller demander réparation pour votre situation, mais ça ne résoudra pas les causes. Ça sera une réparation individuelle. Mais vous avez tout à fait le droit. Dans le droit, si vous sentez qu'il y a une discrimination salariale, alors ça veut dire, c'est par rapport à quelqu'un qui a à peu près le même profil que vous, en termes de métier et en termes de formation. Donc ça veut dire que vous essayez éventuellement, seul ou avec un représentant du personnel, de trouver des personnes qui sont vos homologues, du même sexe et de l'autre catégorie, pour pouvoir comparer. Si jamais vous avez un soupçon que vraiment vous êtes sous-payé, vous pouvez alors déposer une demande au prud'homme. Vaut mieux y aller avec un avocat parce que ce sont des procès extrêmement techniques. Les prud'hommes, on peut y aller sans avocat, mais la plupart du temps, on perd sinon. Donc avec un avocat, vous avancez les frais, mais vous pourrez être remboursé de vos frais si vous gagnez. Vous avancez un soupçon de discrimination. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que la charge de la preuve en droit, elle n'est pas de votre côté, elle est du côté de l'employeur. Si c'est l'employeur qui devra dire « non, je n'ai pas discriminé », c'est-à-dire que s'il y a un écart de salaire par rapport à quelqu'un qui a à peu près le même type de profil, je peux le justifier. Mais il faut quand même savoir qu'il vaut mieux y aller avec un avocat extrêmement bon dans le droit des discriminations, parce que c'est un droit assez nouveau en France. Donc, par exemple, Emmanuel Boussa-Verecchia est en France la spécialiste de ces questions-là. Elle gagne souvent les procès qu'elle défend. Discrimination salariale, discrimination homophobie, peut-être on pourra y revenir tout à l'heure. Et donc, notamment, elle sait comment demander l'accès au salaire. Une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est qu'on n'a pas le droit de demander les salaires nominatifs de ses collègues. Ça, c'est protégé, secret de la vie privée. Par contre, on a le droit de demander un panel comparatif, anonymisé. Et ça, c'est dans le droit. Et notamment, si vous avez des représentants du personnel qui sont dans votre entreprise, ils peuvent vous aider à obtenir ces informations.
Et peut-être pour faire un comparatif entre la France et les autres pays européens, est-ce qu'on est mal classé ou dans la moyenne concernant les inégalités salariales ?
Alors, on est plutôt dans la moyenne par rapport aux pays européens. Donc, il faut savoir que l'égalité salariale, c'est un thème sur lequel l'Union européenne s'est beaucoup investie. En fait, il y a des différences à la fois de niveau, puis il y a des différences aussi d'action. En France, par exemple, il y a eu peu finalement d'usage des prud'hommes. Le nombre de cas de procès pour discrimination salariale fait par les femmes, il est assez faible. On a beaucoup plus pris comme voie d'action la négociation collective. En Angleterre, pays sur lequel, par exemple, j'ai travaillé, comme le droit du travail il est extrêmement faible, comme les contrats de travail sont extrêmement individualisés, il n'y a pratiquement plus de classification et de conventions collectives de branches ou d'entreprises. C'est beaucoup plus passé par les prud'hommes et des procès qui ont été notamment portés et soutenus par les organisations syndicales, notamment certaines organisations syndicales féminisées et féministes, notamment dans le service public, Unison. C'était à la fois un moyen de syndiquer les femmes en leur disant que les organisations syndicales s'occupaient de leurs intérêts, et un moyen aussi d'éviter toute la concurrence à la baisse. Parce qu'une fois que Thatcher était arrivée au gouvernement, les services publics, il y a eu une pression, une concurrence, services publics, services privés, qui a fait progressivement baisser les salaires féminins, la concurrence moins-disant sociale gagnant.
Et peut-être dernière question, donc très rapidement, il y a des récentes études anglo-saxonnes, notamment une de la Banque mondiale en 2014, mais aussi une en France en 2012 par Thierry Laurent et Ferhat Mioubi. Qui tendent à montrer que les lesbiennes seraient mieux payées que les femmes hétérosexuelles, de plus 8 à plus 20% selon les pays. Qu'est-ce que vous pensez de ça et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme explication ?
Alors, merci de m'avoir fait découvrir l'article qui est donc publié dans Économie et Statistiques en 2003, parce que c'était le premier article publié en France sur ce thème. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'en fait, on n'a pas d'enquête sur les salaires ou l'emploi où il y a une identification des personnes, auto-identification comme LGBT. Donc, c'était le premier article. Il faut savoir, si vous regardez la méthodo, que ce n'est pas basé sur le fait de se déclarer lesbienne ou gay. C'est une approximation. Ils ont déclaré comme gay ou lesbienne ceux qui vivaient comme colocataires avec une personne de même sexe. Donc, c'est quand même... Bon, c'est une approximation. Et donc, ils disent que les gays... eux auraient une pénalité salariale assez forte. Une des raisons, c'est qu'on les compare aux hétéros. Et eux, leur orientation, en général, ils vont plus, en termes de secteur aussi, dans des métiers de service, des professions féminisées. Donc finalement, ils ont la pénalité des métiers féminins. Et à l'inverse... les lesbiennes, on les compare aux femmes hétéros. Et donc, leur profil est un peu différent. Elles sont plus diplômées, elles sont plus urbaines, elles sont moins inactives, elles sont moins à temps partiel et elles ont moins d'enfants. Donc, en fait, elles ne sont pas tout à fait pareilles que les femmes moyennes, ce qui expliquerait cette prime, peut-être, ou leur moindre bas salaire.
Bah très bien, on va peut-être continuer à parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais en attendant, on va écouter On parle de parité de Femousté, donc un groupe toulousain. Le nom, c'est la contraction de Famous et de Troberitz en occitan. Et ça veut dire les femmes troubadours célèbres.
Spécialement dédicacé aux routières, aux câblières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, éthologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières. Costumière, couturière, façonnière, gantière, lingère, ménagère, guichetière, secrétaire, romancière, aventurière, vas-y, continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacée aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, galériennes, magiciennes. Aux historiennes, bohémiennes, grammairiennes, physiciennes, techniciennes, aux gardiennes, électriciennes, mécaniciennes, comédiennes, pharmaciennes, musiciennes, famousiennes. travail égal à celui qui a fait le mal.
La qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
Alors nous sommes toujours sur le plateau de Gouinement Lundi avec nos invités Sophie Pochic, sociologue, Anne-Gaëlle Duvauchel, administratrice de l'association L'Autre Cercle, ainsi que Marie-Aline Millot de Lesbienne ou Tech. Alors justement, Marie-Aline, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est Lesbienne ou Tech ?
Ouais, c'est un réseau de femmes queer qui travaillent donc dans la tech, qui a été fondé en Californie fin 2012 par Lynn Spitzford. Dont l'objectif était de rassembler effectivement les femmes dans ce milieu et de donner de la visibilité aussi bien en interne dans la communauté qu'en externe, c'est-à-dire de se reconnaître, de pouvoir partager des expériences, au mieux du coup de réseauter et donc de pouvoir se proposer du travail et grandir ensemble. Avec du coup pour démarrer des formats d'afterwork dans des bars au départ, c'était vraiment son réseau proche visiblement d'amis en fait qui a émergé. En se propageant après, du coup, à travers les États-Unis et puis, bien sûr, à travers le monde et depuis l'année dernière à Paris.
D'accord. Du coup, c'est quoi ton rôle, toi, un petit peu
Alors, du coup, j'épaule Marine Romzin, qui a donc ouvert le réseau l'année dernière à Paris, sur, du coup, la partie, on va dire, opérationnelle, dans le sens où on essaye de trouver donc des lieux pour organiser les événements, de trouver les thèmes, de trouver les speakeuses et de pouvoir du coup passer des bons moments tout ensemble.
Mais comment ça marche du coup? Alors c'est un réseau, mais donc il y a des événements. En quoi ça aide du coup
Ouais, donc du coup sur Paris, donc on a aussi repris le principe des afterworks en rajoutant du coup justement l'aspect thématique qui permet du coup de faire des présentations. En vulgarisant certaines choses pour donner un accès à peu près tout le monde. Et du coup, on fait des événements tous les 2-3 mois, on va dire. Du coup, voilà, en proposant du coup aux personnes de venir et d'assister à nos événements. Et
par exemple, comme thématique
Alors du coup, on a eu justement le sujet d'être lesbienne au travail. Donc ça, c'était début d'année 2016. On a donné aussi une petite présentation sur des outils qu'on utilise au quotidien. Sketch, GitHub, etc. Donc de manière très vulgarisée pour que ce soit vraiment accessible effectivement à la plupart d'entre nous, qu'on puisse venir d'un domaine spécifique de la tech, mais qu'on puisse du coup avec notre curiosité venir et comprendre de quoi il s'agit et puis se dire ah tiens pourquoi pas commencer à utiliser ça.
Moi je sais même pas ce que c'est, tu vois.
C'est des outils de GitHub, c'est un outil de versionning pour le développement informatique et puis Sketch du coup un outil on va dire un peu comme Photoshop du coup pour la création graphique. Donc voilà, et puis fin d'année, on a fait un petit tour de table aussi pour savoir si justement ces thématiques abordées étaient voulues et à élargir. Et puis du coup, on a eu un bon retour pour continuer dans cette voie-là.
Mais est-ce que les participantes elles sont uniquement des femmes?
Non.
Et à l'intérieur uniquement des lesbiennes, ou bien est-ce que ces afterworks sont ouverts à tous?
Oui, bien sûr, c'est ouvert. Effectivement, du coup, on L'idée de base de Lesbienne ou Tech, c'est forcément du coup d'être inclusif et d'ouvrir. Je suis re-allée aujourd'hui sur le site pour bien revoir le about et bien travailler du coup mon discours de ce soir. Et effectivement, du coup, l'idée c'est que c'est pas qu'il suffit, mais c'est que quand on se reconnaît du coup dans l'émancipation de la femme et notamment des lesbiennes, Il suffit d'adhérer à ça pour du coup être légitime à venir être ensemble. Et donc, en général, c'est lesbiennes ou tech and allies, donc les alliés. Et effectivement, du coup, on a des personnes trans, on a du coup des bi. Après, effectivement, on va pas, enfin, on le sait nous-mêmes autour de cette table, on va pas s'amuser à vérifier la sexualité des personnes pour du coup les laisser ou pas passer la porte du bar dans lequel on se retrouve.
Mais le but principal de ces afterworks, c'est quand même centré sur la profession. C'est-à-dire que le thème, c'est quand même un thème professionnel. C'est-à-dire maîtriser tel outil, tel projet, etc. Mais il se trouve que cet enseignement sont faits par et pour des personnes lesbiennes et leurs alliés. Okay. Ou bien est-ce que le thème principal, c'est réunissons-nous en tant que lesbiennes, et puis aussi bien on va prendre le thé plutôt que de parler du nouveau Mac ou quoi?
Oui, c'est plutôt la deuxième option, c'est-à-dire de retrouver le sens qu'on a à travailler du coup dans la tech, dans différents milieux spécifiques, dans différentes branches, et de partager autour de ça. Effectivement, il y a la couche effectivement professionnelle qui permet de partager davantage, mais l'idée c'est de se réunir, de donner en fait un safe space, un format où effectivement on a dans nos communautés du coup l'occasion de se réunir à des soirées, ici ce soir. Et du coup, donner un autre format professionnel, justement un réseau de professionnels, de femmes lesbiennes pour se retrouver.
Et justement, en discutant avec ce groupe, enfin, les gens que vous rencontrez, vous vous rendez compte qu'il y a des discriminations donc, dans le milieu de la tech pour les lesbiennes? Est-ce que c'est plutôt salarial, comme on parlait au début? Est-ce que ça va plutôt être le plafond de verre déjà? Est-ce que peut-être quelqu'un pourrait donner une définition de ce qu'est le plafond de verre?
Le plafond de verre, c'est une expression qui a été créée à la fin des années 70 aux États-Unis, le glass ceiling, pour mettre un mot sur les obstacles invisibles que rencontre une catégorie minorisée dans la progression de carrière. Elle a été au départ portée par des femmes et des journalistes autour du plafond de verre envers les femmes cadres, et puis après ça a pu être utilisé pour d'autres types de catégories. D'ailleurs, à l'origine, une des femmes qui avait lancé contre et avait créé la notion de glass ceiling, c'était une femme cadre de IBM, en sachant que les entreprises informatiques, IBM, étaient parmi les entreprises américaines qui avaient le plus tôt mis en place des politiques d'equal opportunity, d'égalité des chances, et elle disait que ça ne marchait pas.
Donc vous, est-ce que vous avez constaté ça dans les différents témoignages que tu as pu entendre lors des soirées ou...
la soirée spéciale qu'on avait fait là-dessus, c'était la présentation de trois courts-métrages qui suivaient en fait justement sur le fait d'être homo en entreprise. L'idée c'était que chaque personne puisse un petit peu évoquer sa situation, qu'on puisse croiser du coup avec ce qui était ressenti dans les interviews. C'est pas quelque chose qui est ressorti de manière évidente, les problèmes de salaire, plus de situation au travail. C'est plus récurrent de dire qu'effectivement on sent une tension par rapport à ça et que du coup on va le cacher, qu'on va pas mentionner sa vie privée ou au contraire du coup mentir là-dessus en disant que oui, on est avec un homme quand on est une femme et que du coup ce qu'on a fait le week-end c'était sortir voir des amis de cette manière-là. On parle plus, enfin, du coup, du changement de la vie privée ou du problème de la vie privée plus que du salaire, en tout cas.
Mais parce que, du coup, est-ce qu'il y a une particularité, là, à Paris, qui est différente des États-Unis?
Je pense que oui. Je pense qu'en France, on n'est pas encore assez ouvert sur, justement, les notions d'équité et de diversité. Effectivement, du coup, ça arrive par ce genre de grandes entreprises dans lesquelles ont été tournés les cours, qui importent, en fait, des optiques et des pôles diversité dans leurs entreprises. C'est-à-dire que du coup, ils vont prendre conscience de ce problème-là, ils vont trouver du coup les personnes qui sont prêtes à s'investir et du coup travailler pour que tout le monde accepte tout le monde de la même façon. Aux États-Unis, il y a il y a certaines grosses boîtes, en tout cas dans le domaine de la tech, des startups, qui sont hyper transparents sur les salaires. Buffer, en l'occurrence, qui donne à disposition au tout public en fait, les salaires de différentes personnes dans certaines tranches, en donnant du coup l'ancienneté, le diplôme, et c'est consultable par tous, en fait, sur un Google Drive. Et effectivement, du coup, ça, en France, j'en ai pas encore vraiment entendu parler.
D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu là, enfin, dans, est-ce qu'il y a vraiment un réseau qui s'est construit de lesbiennes ou tech en France et à Paris? Est-ce que il y a plus de monde que au début quand ça s'est lancé? Est-ce que ça a pris de l'ampleur? Est-ce que
ça, c'est une question un peu dure. le truc hyper positif qui s'est passé au lancement l'année dernière avec un premier apéro de lancement, c'est qu'il y a eu près d'une centaine de personnes qui sont venues. C'était dingue. Alors moi, j'y étais pas, mais on m'a raconté les chiffres et j'ai vu les photos et c'était génial. Et c'est ça qui m'a fait donner, qui m'a donné l'envie de contacter Marine par la suite. Par contre, ce qui est super cool, c'est que quelles que soient les thématiques qu'on a, on a à peu près une cinquantaine de personnes qui viennent du coup à nos apéros, enfin aux afterwork. On essaye de trouver le meilleur format pour entre deux événements, garder du coup la même énergie. On a essayé un outil, on voit que tout le monde accroche pas, donc on va essayer justement d'aller plus sur un groupe Facebook qui roule déjà un petit peu, et il faut qu'on arrive à trouver le meilleur moyen pour dynamiser ça et effectivement construire une vraie communauté. Et du coup, traverser aussi les frontières parisiennes, même si du coup il n'y a pas forcément d'antenne dans d'autres villes de France, mais au moins se dire bah, je fais partie finalement de Lesbiennes ou Tech France. Ça serait plutôt quelque chose d'assez chouette.
Et parce qu'il y a eu, donc depuis que ça existe, là, depuis un peu plus d'un an, par exemple, des créations de, je sais pas, peut-être d'entreprises, pas d'entreprises, mais peut-être de start-up, des trucs comme ça, juste avec un groupe qui se serait formé à partir d'une réu, tu vois.
Ouais, ça me ferait beaucoup, ça me ferait très plaisir, mais je crois que pas encore, sinon on n'est pas au courant.
Okay.
Et si des filles ont monté leur boîte, Ou des deals de contrats freelance ou autre. Je pense qu'on serait ravis de le savoir.
Ok, d'accord. On va peut-être passer
un petit morceau, ouais. Cette fois-ci, c'est Donna Summer, une chanson qui date de 1983 et qui s'appelle She Works Hard for the Money. Tout le monde connaît. Mais on vous conseille de revoir le clip où on voit des femmes de différents corps de métiers, coiffeuses, vendeuses, secrétaires, qui s'arrêtent de travailler, prennent la rue et dansent pour signifier leur indépendance et la reconnaissance de leur dur labeur.
Oh,
Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
Avant d'entamer notre troisième partie sur la lesbophobie et les actions de l'autre cercle, on retrouve Nina Guilherme et sa chronique lesbienne à l'étranger. Cette fois-ci, on part en Irlande.
Être lesbienne à l'étranger, destination Belfast en Irlande du Nord.
My name is Orla and I'm from Belfast in Northern Ireland.
Je m'appelle Orlat, je viens de Belfast, d'Irlande du Nord. J'ai fait mon coming out il y a environ 10 ans. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour les lesbiennes et même pour les gays. Il y avait seulement deux bars à Belfast qui étaient queer friendly et c'est là où tout le monde allait et où les gens se rencontraient. En tant que jeune lesbienne, c'est difficile d'aller directement dans des bars. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé un club de jeunes pour des lesbiennes. On se rencontrait pas seulement pour boire des verres ensemble, mais on organisait aussi des choses. Et on a soutenu aussi la création de groupes pour des jeunes lesbiennes dans d'autres endroits de l'Irlande du Nord. Pour moi, c'était une très bonne expérience. Aujourd'hui, la situation des lesbiennes à Belfast est bien meilleure qu'à l'époque. En termes de visibilité surtout. On voit de plus en plus de lesbiennes se tenir la main en public sans que personne ne les fixe. Beaucoup de jeunes femmes deviennent plus sûres d'elles. À Belfast, bien sûr, c'est plus facile. Dans les régions rurales, c'est pas pareil. La plupart des lesbiennes des milieux ruraux avec qui on travaillait n'avaient jamais rencontré de lesbiennes dans leur vie, par exemple. J'ai travaillé pendant un moment pour l'association pour les femmes lesbiennes et bisexuelles qui s'appelle Here and I. Here fait référence à la visibilité et and I, Northern Ireland. J'y ai travaillé pendant 6 ans comme chargée du développement de la communauté dans toute l'Irlande du Nord. J'ai accompagné la création de 10 groupes de soutien pour lesbiennes et bisexuelles. Dans ces groupes, il s'agissait de renforcer la confiance en soi, empowerment, mais aussi de les rassembler autour d'intérêts communs, comme par exemple l'écriture, le théâtre. Et d'ailleurs, une écrivaine qui participait à ces groupes, Hilary McCollum, a écrit un roman historique lesbien intitulé Gold Digger, et que je conseille vivement, c'est un très bon livre. En ce moment, cette association travaille beaucoup autour de la question de la famille. Il y a un baby boom parmi les lesbiennes à Belfast, beaucoup de cliniques privées qui permettent à ces femmes d'avoir des enfants. L'association travaille aussi en partenariat avec le Rainbow Project, qui est une grande association LGBT à Belfast. La différence, c'est que l'association Here and I est destinée uniquement aux femmes et aux personnes qui s'identifient comme femmes. Si je peux donner un conseil aux lesbiennes qui viennent à Belfast, c'est d'aller dans deux bars, le Kremlin et le Black Box, qui sont situés dans le même quartier. Et depuis 7 ans, il existe un festival des arts queer, c'est une amie à moi qui gère ça, et ça a lieu en novembre chaque année. Ça s'appelle Outburst. Ça dure 10 jours et il y a plein de sortes d'événements queer, comme des pièces de théâtre, des performances, des lectures de poésie, etc. Ça se passe dans le quartier de la cathédrale, et par ailleurs, dans ce quartier, il y a plein de cafés, de clubs, etc., qui sont sympas pour les personnes queer. Pour plus d'informations sur les références évoquées dans le reportage, allez sur le site Homo Micro à la rubrique Gouinement lundi.
Donc Marie-Hélène, tu voulais juste rajouter quelque chose pour conclure ?
Oui, qu'on cherche des speakers du coup prêtes à partager leur expérience du coup lors de nos afterwork et aussi des filles intéressées pour s'impliquer dans l'organisation parce qu'on a besoin de faire grossir notre petit noyau pour continuer à proposer des événements. Tous les 2-3 mois, voire plus forte fréquence.
Ok, donc venez tous à Lesbianoutech.
Et comment on vous contacte
Du coup, on a un groupe Facebook LWT/Paris. Il faut faire une request et on vous une demande d'ajout du coup et vous pourrez avoir accès du coup au groupe sur Twitter LWTech Paris et par mail LWTParis@gmail.com.
Et de toute façon, vous pourrez trouver tous les liens sur le site de mon micro.
Alors peut-être Anne-Gaëlle, toi qui es membre de l'autre cercle, est-ce que déjà tu peux nous expliquer en 2-3 mots ce que fait l'association et ce que tu y fais toi ? Et pareil, est-ce que toi tu as eu des cas de lesbophobie au travail, alors que ce soit dans les inégalités salariales ou plafond de verre des lesbiennes, ou si c'est juste finalement, comme tu disais, plutôt à Lesbianoutech, de devoir se cacher, de ce que ça induit en termes de stress au travail. Voilà, peut-être nous faire un premier retour sur ça.
Oui, donc effectivement, là, je viens ce soir parce que justement, je profite, Moi, je suis à Toulouse et je profite que demain, il y a une grande conférence de l'association L'Autre Cercle, suivie d'un dîner-débat, un dîner de gala avec des entreprises, pour justement ce qui me permet de passer vous voir ce soir avec ma valise, là, qui est dans un coin du studio. Et dans la problématique qu'on a vue depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des inégalités salariales. Et on voit que c'est lié, puisque il y a eu le lien qui a été fait, c'est lié aussi avec des comportements et d'ailleurs des entreprises elles-mêmes, qui sont des patrons, entre guillemets, et des comportements des personnes LGBT elles-mêmes aussi, évoluent pas vite des deux côtés et font que les situations créent un environnement qui provoque ces inégalités, ces exclusions. Alors L'Autre Cercle, c'est une association qui va plutôt essayer de s'attaquer au plus profond des causes du phénomène, qui sont effectivement les représentations que les entreprises et que les gens en général peuvent avoir des personnes LGBT, des lesbiennes, et essayer d'agir sur ces représentations pour justement que à l'avenir, il n'y ait plus d'une manière cachée de plafond de verre envers les gens. Donc c'est essayer d'attaquer le problème vraiment au profond du psychisme, je dirais, des idées de tout le monde. Et donc L'Autre Cercle, c'est une association qui existe depuis le début des années 2000 et qui réunit actuellement à peu près 500 personnes. Et 500 adhérents et qui sont répartis sur toutes les régions. Donc il y a à peu près une association par région. Et donc c'est pour ça que c'est une fédération, parce que chaque association locale a sa personnalité propre et se fédère donc au niveau national. Ce qui permet effectivement que dans chaque région, il y a une antenne et un moyen de joindre.
Mais quand tu dis donc un peu attaquer le problème à la source, c'est donc par le biais de formation pour déconstruire les stéréotypes?
Oui, alors on agit en fait par plusieurs moyens. Il y a effectivement, alors en direction, disons, des entreprises et des décideurs, nous menons beaucoup d'actions puisque nous essayons de mettre au point des chartes de comportement, et nous faisons signer des chartes aux grandes entreprises et même à des institutions comme des villes, la ville de Dijon, la ville de Toulouse, mais dans les grandes entreprises, il y a TF1, Sodexo, IBM. Donc nous avons plusieurs dizaines d'entreprises qui, à ce jour, ont signé notre charte. Et elles veulent signer cette charte parce que c'est le fait qu'elles affirment qu'elles s'engagent pour lutter contre les discriminations. Et elles affirment qu'elles veulent que les personnes LGBT se sentent bien dans l'entreprise. C'est un peu c'est ça l'engagement. Mmh. Et quand elles ont compris que si elles lancent un message à leurs employés, qu'elles sont favorables, enfin qu'elles sont ouvertes, que ça ne posera aucun problème d'être gay, lesbienne, bi ou trans, eh bien, elles ont conscience qu'en fait, le climat social de l'entreprise va s'améliorer. Et comme elles sont pas forcément, elles ne font pas ça uniquement par générosité, elles savent que leur entreprise va être plus rentable. Mmh. Parce que les personnes gays, lesbiennes, qui se sentent discriminées, qui n'osent pas parler de leur vie privée devant la machine à café, qui se sentent un peu contrites, donc on a affaire à des gens qui sont un peu recroquevillés. Et donc recroquevillés aussi dans leur capacité, dans leur potentiel pour l'entreprise. Donc de leur permettre d'être épanouis, les entreprises, ces grandes entreprises se rendent compte que ça peut être très rentable. En plus, ça améliore leur image à une époque où quand même la société évolue vers quand même le fait que ça compte de se montrer ouvert. Et donc, elle joue aussi sur l'image qu'elle donne à l'extérieur, sur la possibilité de recrutement aussi de diplômés. Parce que voilà, si les diplômés LGBT ne vont pas dans certaines entreprises parce qu'elles pensent qu'elles vont être discriminées, c'est aussi une perte de talent. Donc voilà, les plus grandes entreprises ont commencé à comprendre ça. Et demain, on va faire une conférence, d'ailleurs, une soirée qui ça va s'appeler... On va publier un nouveau rapport demain qui va s'appeler « Mon entreprise fait son coming out ». Hein, Donc c'est l'entreprise elle-même qui fait son coming out, comme quoi elle est ouverte au LGBT. Alors ça, c'est un, on peut revenir sur tout ça. En
c'est
tout
un
cas,
deuxième
c'est
palier
moyen.
Finalement, parce que la signature de la charte, ça obligeait pas à la communication.
Oui, si en principe la signature de la charte, non. Là c'est plutôt une étude qui aura été faite, des interviews, c'est-à-dire que là des patrons, des employés. Donc là il y a eu toute une enquête qui a été faite à l'intérieur de ces entreprises pour recueillir des témoignages. Des cadres ou des employés pour voir comment ça se passe, comment ça se passe réellement, y avoir des témoignages qui tendent à montrer que ça va mieux quand c'est expliqué.
Parmi les entreprises consignées ou c'est
oui,
plus
surtout
large,
disons que les entreprises consignées, elles sont plus malléables pour ne pas nous refuser d'ouvrir leurs portes, puisqu'elles ont signé, il faut donc qu'elles nous répondent. Et donc, mais ce sera dévoilé demain, je n'ai moi-même pas eu la teneur détaillée de ce rapport, donc demain il y aura de la communication sur mon entreprise fait son coming out. Donc ça c'est la première grande branche, donc l'action en direction. Et la ville de Toulouse, par exemple, d'où je viens, a signé, peu après avoir élu quand même une municipalité de droite, cette municipalité de droite a signé la charte LGBT. Ensuite, nous nous appliquons effectivement à faire en sorte que ce soit pas tout de signer, parce que ça fait un geste valorisant, ça fait de la communication, puis en rester là. Donc nous créons un service un petit peu d'accompagnement pour que les entreprises puissent, qu'on puisse les accompagner pour voir concrètement qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait dans l'enquête pour mettre en œuvre cette bonne intention. Alors il peut y avoir notamment, par exemple, rien que le fait d'afficher une charte dans l'entreprise, afficher la charte de partout, ça, c'est un signal fort. Et souvent, les choses marchent à partir de signaux forts. Par exemple, d'avoir des numéros d'appel possibles dans certaines entreprises où les personnes discriminées peuvent appeler en anonymat, enfin, ont un recours, ont un appui quelque part. Tout ça, c'est des choses qui ne coûtent pas forcément cher à mettre en œuvre, mais qui sont des signaux forts et qui vont permettre de briser un petit peu des coquilles dans lesquelles les gens sont enfermés. Donc ça, c'est un peu l'action de l'autre cercle. Et puis, il y a un autre type d'action.
Et peut-être, pour finir oui, sur ça, combien tu dirais qu'il y a d'entreprises qui ont effectivement mis en place oui. La charte qu'elles ont signée ?
Pardon ?
En pourcentage, combien il y a d'entreprises qui ont effectivement...
Ah, ben, ces chartes, elles datent, elles ont commencé à être mises en place il y a quoi ? Il y a 4-5 ans. Donc, effectivement, il y a un gros travail derrière à pouvoir vérifier... À pouvoir. Mais ça sert à ça parce que si vous voulez, chaque année, et c'est le cas demain, on fait un gala annuel, un dîner de gala qui invite les entreprises signataires. On a créé aussi un club des entreprises signataires. Donc elles sont réunies, une sorte de club. Et donc ce club est animé. Et ensuite, comme demain soir, il va y avoir toutes ces entreprises conviées à un dîner de gala. Et donc chacune va être amenée à pouvoir quand même témoigner des progrès qu'elle a fait. Donc elles sont quand même, par ce moyen un peu diplomatique, elles sont quand même au pied du mur chaque année amenées à témoigner de leur progrès et à s'engager. Mais il est vrai que, notamment vis-à-vis de municipalités ou d'autres institutions, bon, c'est plus lourd, c'est plus, quelquefois plus difficile, plus complexe à faire en sorte que les choses amènent vraiment. Donc on est obligé derrière et c'est le rôle des associations locales aussi de vérifier, d'essayer de demander aux municipalités où est-ce qu'elles en sont, est-ce qu'elles ont fait quelque chose, etc. Et nous avons un travail à mener avec notre municipalité. Et en outre, nous avons fait signer des chartes vieillir LGBT, c'est-à-dire que faire attention au personnel LGBT vieillissant dans les maisons de retraite, notamment dans les politiques mises en place dans les villes pour les seniors, ne pas oublier qu'il peut y avoir des personnes vieilles et tout autant LGBT et qui peuvent être là aussi oubliées et encore plus stigmatisées. Donc la ville de Toulouse, par exemple, a signé aussi la charte vieillir. Reste maintenant, effectivement, à aller voir concrètement comment ça se passe.
Mmh. Et donc, plus spécifiquement, du coup, c'est quoi les manifestations, par exemple, de lesbophobie au travail ?
Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, là. On en a déjà un petit peu parlé. La lesbophobie au travail, c'est ambigu, d'ailleurs, comme la Marquet, notre ami sociologue, c'est ambigu parce que... théoriquement, on peut parler de double plafond de verre, de double discrimination, puisqu'une personne lesbienne va être déjà discriminée a priori en tant que femme. Donc, on sait très bien, en dehors des disparités salariales dont on a bien parlé tout à l'heure, on sait très bien qu'une femme va avoir plus de mal à s'imposer dans une réunion où il y a des hommes. Je ne sais pas si vous... J'ai vu quelque chose d'assez rigolo récemment, je crois que c'était sur Facebook, que les femmes américaines, des cadres aux États-Unis, elles se sont, lorsqu'il y a une réunion, elles se sont aperçues que quand elles donnent une idée, une bonne idée, par exemple autour de la table, il y a inévitablement un homme qui s'en empare. Et qui, au final, à la réunion, ce que retient le PDG, etc., ça vient de la parole de l'homme qui s'est emparé. Alors, elles ont mis au point un système de relais où quand il y en a une qui dit quelque chose, l'autre le reprend, la troisième reprend ce qu'a dit la deuxième, enfin, etc. Il y a des stratégies à mettre en œuvre pour que... voilà, il y a tous ces phénomènes-là. Bon, là, c'est la discrimination un peu homme-femme, en dehors des salaires. Alors, si, en plus, la femme est lesbienne, les effets sont peuvent être assez complexes. Parce que effectivement, on va retrouver un peu la gêne des autres, et là, cette fois-ci aussi des femmes, éventuellement, vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas comme eux, qui a une sexualité différente, et avec tous ces phénomènes de crainte, de suspicion, un petit peu de mise à l'écart, auquel répond le comportement de la lesbienne elle-même, qui va avoir plutôt tendance à le cacher. Enfin, j'ai des chiffres là-dessus. Donc, il y aurait une double discrimination. Mais en même temps...
Vous avez des témoignages, vous ? Enfin, il y a des gens qui appellent l'autre cercle pour témoigner, se faire aider.
L'autre cercle n'agit pas sous cette forme-là. Il n'y a pas vraiment de ligne d'écoute ou de discrimination. Demain, dans les témoignages qu'on aura, il y aura évidemment éventuellement un certain nombre de témoignages, mais c'est quelque chose de plus... Comment dire, de plus subtil, c'est moins mesurable. Les disparités salariales, on peut éventuellement trouver des chiffres. Mais mesurer que quelqu'un se sent plus ou moins bien, justement, c'est qu'il y a, si vous voulez, le deuxième axe dont je voulais parler tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il faut aussi agir et former les personnes LGBT, les aider à, justement, devenir visibles. Parce que, et sans les forcer, évidemment, mais on constate que plus les personnes sont visibles, plus elles s'affirment, mieux elles sont dans leur peau, et plus elles s'imposent, et plus elles sont respectées. Et évidemment, c'est un gros cap à passer. Hein. Une personne qui a peur, et qui a peur souvent avec raison aussi, il y a quand même des motifs de peur, mais globalement, le progrès vient quand même qu'à chaque fois, des gens sont devenus visibles, et du coup, les autres autour se sont dit « Ah ben oui !» Ben, ça se passe bien, puis ben, elle travaille bien, il n'y a pas de raison, enfin, on peut en parler.
Comment inciter finalement, vous faites...
On fait des formations internes.
Internes.
Oui, on fait des formations internes, dont certaines que j'anime, et où on fait des ateliers, on peut s'inscrire nos adhérents, pour réfléchir à tous ces phénomènes de comportement, comment on détecte les comportements, l'environnement, qu'est-ce qui ne va pas dans l'environnement, et comment, éventuellement, on peut agir, tout du moins prendre conscience. Et déjà, de prendre conscience qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas normaux, prendre conscience qu'être visible, ce n'est pas forcément la catastrophe, au contraire. Il y a tout ça qu'il faut aussi... Et donc autour de la table, quelquefois, bon, il y a 10, 12, 15 participants. Bon, il y en a la moitié qui sont visibles dans leur entreprise, puis il y a l'autre moitié qui est là, plus ou moins, d'autres qui se demandent, qui si, etc. Et en entendant les collègues parler, ils se disent « Ah ben oui, quand même, oui. » En fait, c'est la seule vraie solution au bout d'un moment, parce qu'il faut que ça passe ou que ça casse. On est dans une entreprise homophobe, enfin LGBT-phobe, forte, et on va être mal toute sa vie. Alors peut-être qu'il faut à un moment donné, si on est encore jeune, si on a encore des chances, ben, risquer le tout pour le tout et ne pas vivre toute sa vie martyrisée. Ou alors, on va s'apercevoir que l'entreprise, finalement, elle n'était pas si homophobe que ça. Simplement, on n'en parlait pas. Donc voilà.
Et est-ce qu'il y a une spécificité, par exemple, pour les femmes trans, lesbiennes aussi ?
Alors là, les femmes trans, le cas est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, bon, la population trans représente à peu près un centième ou même un millième de la population homo, donc c'est déjà une minorité dans la... puisque on sait que les personnes LGBT, grosso modo, représentent 8, à peu près 8% d'une population, quel que soit le pays, la culture, etc. Mais les personnes trans représentent à peu près 1000 fois moins. Donc c'est une... il y a des cas qui sont rarissimes, et donc, en fait, des cas rarissimes, déjà, c'est une curiosité auxquelles personne n'est préparé. Donc la plupart des entrepreneurs, des entreprises, si une femme arrive en disant « moi, je veux évoluer vers homme, j'ai toujours senti que j'étais un homme et je veux vivre en homme », ou au contraire, un homme qui dit maintenant « je veux vivre en femme », c'est quelque chose qu'on regarde comme un ovni qui a débarqué là au milieu de la course. En course. Donc, il peut y avoir des premiers réflexes qui ne sont pas bons. Donc il y a un problème de formation et les entreprises ne vont pas vraiment dépenser d'argent, même on leur propose des formations sur la transidentité, il faut dire attends, avec tout ce qu'on a à régler comme problème pour l'instant, ça se produira toutes les années bissextiles, donc on va attendre que ça se produise, donc voilà. Alors en plus les trans ont vraiment un problème plus particulier, c'est qu'il y a des problèmes de papier d'identité. Donc, un homme qui devient femme ou une femme qui devient homme, elle va avoir toute une période au début où elle va commencer à apparaître vraisemblablement dans son physique comme dans l'autre genre, mais ses papiers d'identité, eux, seront toujours les mêmes. Et il va falloir attendre très longtemps un jugement, des transformations importantes et des jugements devant le tribunal pour arriver à changer d'identité. Ce qui fait que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, quelquefois, il se peut qu'une personne ait l'air de l'autre tout en ayant les papiers d'identité.
Donc ça peut bloquer des déplacements professionnels.
Exactement, ça peut bloquer des déplacements professionnels. Ça, et les entreprises sont bloquées aussi parce que s'il n'y a pas de changement légal d'identité, ça risque d'être encore pire d'essayer de changer, puisque notre numéro de sécurité sociale, par exemple, hein, pour les hommes, ça commence par un, et pour les femmes, par deux. Donc ça suit tout le temps pour le bilan social, combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, etc. Pour les caisses de retraite, tout est chaîné sur le numéro de sécurité sociale. Donc on ne peut pas jouer avec le numéro de sécurité sociale, avec les déclarations d'impôts, etc. Donc l'identité légale de l'employé dans l'entreprise va rester figée. Et donc, ça va de toute manière provoquer par-ci, par-là, des clashs. Après, il y a le problème des toilettes, il y a le problème de ceci. Donc, bref, les femmes trans, c'est de toute manière... Une trans ne peut pratiquement pas être recrutée dans une entreprise. Si elle n'a pas ses papiers, ça ne va pas passer. Ensuite, si elle est déjà dans l'entreprise, finalement, si elle sait s'y prendre et si on... Avec l'aide d'associations, ça peut bien se passer. Mais il faut, comment dire, co-gérer. Il faut que la personne elle-même fasse des efforts et l'entreprise aussi.
Alors du coup, on va peut-être juste relancer ouais. Sophie Pochic, parce que vous vouliez parler d'une étude en particulier sur la lesbophobie, peut-être, c'était ça ?
Oui, mais ce que je trouvais très intéressant avec l'autre cercle, c'est qu'ils produisent des études et des chiffres sur un phénomène sur lesquels les sciences sociales, par exemple, se sont pour l'instant très, très peu penchées. Et c'est vraiment très dommage. Dans le master genre et sexualité de l'HESS où on est, on a pourtant beaucoup d'étudiantes lesbiennes, même des étudiants trans qui viennent, qui font des études, mais ils s'intéressent à la question identité, sexualité, et très peu à la question travail. Et alors que quand même, c'est une dimension un peu... Enfin, ça nous prend du temps dans nos journées. Et puis toutes ces questions, discrimination, stratégie, organisation collective pour lutter contre la lesbophobie au travail. On a des initiatives d'associations, mais on n'a pas pour l'instant de vrai savoir scientifique. Et ce qui est un peu différent en Angleterre, par exemple, où... les recherches sur sexualité et travail sont plus développées et on commence à avoir des enquêtes sur lesbiennes au travail. Et donc moi, j'ai une collègue, par exemple, qui s'appelle Tessa Wright, qui a travaillé sur les femmes dans les métiers masculins, notamment les chantiers et le transport, et qui avait surreprésenté dans son échantillon les lesbiennes pour savoir si elles vivaient moins bien ou mieux que les autres femmes, le fait d'être dans un milieu de mecs, quoi. Et son enquête, elle est plutôt assez positive sur ce côté-là, c'est-à-dire qu'elle ne vivait pas obligatoirement mal, au contraire, le fait d'être dans un milieu masculin. Certaines avaient en fait choisi
cette orientation un peu atypique pour une femme, justement parce qu'elles aimaient la technique, elles voulaient être sur les chantiers, elles voulaient conduire des bus ou des camions. Et puis certaines aussi étaient très contentes de faire un métier de mec parce qu'elles avaient un salaire de mec et qu'elles avaient choisi ça parce qu'elles savaient qu'elles ne pourraient pas compter sur le salaire d'un mari et que l'émancipation économique, c'était aussi l'émancipation personnelle. Donc son enquête, elle est vraiment... Elle est assez intéressante. Et justement, en Angleterre, il y a plus de réseaux LGBT dans les entreprises. Ça fait très... C'est sur le modèle américain, c'est beaucoup plus développé. Et même les organisations syndicales ont des réseaux LGBT au sein des syndicats. Et moi, par exemple, j'ai travaillé sur le premier syndicat du service public, Unison. Ils ont une presse spécialisée qui s'appelle Out in Unison. Et vous avez des encarts pour les délégués du personnel, comment accompagner un changement de sexe d'un salarié dans son service. Vous imaginez le délire. Mais en tout cas, c'est vraiment comment accompagner au mieux un univers de travail inclusif, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des associations. On pourrait espérer que les organisations syndicales s'emparent aussi.
On voit qu'on a encore du chemin à faire. Et pour conclure, vraiment très rapidement, parce qu'on va
juste pour signaler qu'effectivement, on parlait d'études. Donc, l'autre cercle a publié, justement, a été capable de mener des enquêtes, puisqu'elle est au sein des personnes LGBT. Donc, on a mené une enquête en 2008 sur 630 lesbiennes. Donc, là, avec une définition. Donc, il prouvait que 2 sur 3 déclaraient ne pas être visibles. Ça veut dire qu'un tiers sont visibles, mais 2/3. Se cache. Voilà. Et donc, il y a des tas d'autres chiffres. Mais en tout cas, nous avons des chiffres et des enquêtes.
Ah oui, on voit vraiment que cette question de l'invisibilité et d'être dans le placard en entreprise est encore très forte. Et on va finir donc sur Sexy Sushi, je refuse de travailler. Ouais. Et merci à nos invités, Sophie Pochic, Anne-Gaëlle Duvauchel et Marie-Aline Niaud, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé avec nous à la préparation de cette émission, Amandine Miguel, Nina Guilherme, Juliette Amé, Mathilde Mestre, Capucine Borghez et Isabelle à la technique.
Winman Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.